Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons au numéro 8 concernant le salut. Le titre sera « Le combat divin ». Le combat divin. En effet, le règne de Satan sur la terre s'est terminé quand Jésus-Christ a été crucifié. C'était le vendredi de la Pâque, en l'année 27 après Jésus-Christ. Les nouvelles du résultat de cette lutte titanique entre les deux grandes superpuissances ont été annoncées au monde pour la première fois le dimanche suivant. Oui, le dimanche suivant, le jour où Jésus-Christ a été ressuscité. Gloire à Dieu. Et je vous donnerai les indications bibliques, car il est toujours important que vous puissiez contrôler ce que quelqu'un vous dit, car nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi, on sera responsable, et moi le premier. Dans Saint Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, nous voyons que des témoins ont été choisis pour déclarer partout dans le monde le fait prodigieux de la chute de Satan. Tout le monde avait maintenant la liberté du salut gratuit que Jésus avait gagné pour eux et qui est décrite dans Saint Marc, chapitre 6, verset 15, ainsi que dans Saint Luc, chapitre 24, verset 47. La Bible nous permet de comprendre la suite des événements qui ont mené à ce revirement stupéfiant de l'équilibre de la puissance surnaturelle sur notre planète, la Terre. Dans la Genèse, au chapitre 2 et 3, là nous voyons qu'au début, Dieu avait limité sa souveraineté en donnant à chaque être créé au ciel ainsi que sur la terre la liberté de volonté. J'appelle cela le libre choix. À tous a été donné le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Ils étaient libres d'obéir ou de désobéir à Dieu. Dieu n'a pas créé des robots, mais des personnes. Il désirait une relation avec eux par une action libre de leur volonté. Il ne les forçait pas dans une relation d'amour, parce que l'essence d'amour est une réponse libre, libre envers l'aimé. Donc, la possibilité pour le bien est merveilleuse. La possibilité, par contre, pour le mal, elle est négative, terrible. Mais c'est un risque que l'amour devait prendre. Et ceci est une vérité profonde dans l'histoire d'Adam et d'Ève, déjà dans le jardin d'Éden. Comme l'histoire nous le montre très clairement, Satan s'est déjà rebellé, combattant d'être exactement comme Dieu lui-même. Puis il est apparu dans l'apparence d'un serpent et il a tenté l'homme aussi de vouloir ou de pouvoir être comme Dieu. Donc persuadé par cette terrible ambition, l'homme a malheureusement succombé au pouvoir de Satan. Alors, l'homme a presque complètement, on peut bien dire, perdu son expérience avec Dieu quand cette mauvaise superpuissance a renforcé son étreinte sur la race humaine. l'adoration des idoles par les païens, ce sont les choses occultes, et la superstition, cela n'a jamais changé, et souvent avec des rituels terribles tels que des sacrifices humains sont devenus l'ordre du jour. Selon Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5, les hommes sont devenus mortels dans les iniquités et les péchés, satisfaisant les désirs de la chair et de la pensée, vivant sous le contrôle du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. Saint Paul a dit dans Romains, au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et n'ont pas été à la hauteur de la gloire de Dieu. » La Sainte Bible, c'est le seul livre dans le monde qui décrit non seulement la chute de l'homme, mais aussi l'opération de secours, oui, le secours de la part de Dieu. Dieu a regardé du ciel et a vu la terre, une planète qu'il avait donnée aux hommes pour l'habiter. Alors il avait créé sur la terre une espèce unique d'après sa propre image et avait l'intention d'avoir une relation profonde et durable avec l'homme et lui-même. Maintenant, il voyait la race humaine tâtonnant dans l'obscurité spirituelle, et ceci dans un état constant de rébellion contre lui. Ainsi, il a été coupé d'une vie sainte et immortelle, et il a été obligé d'aller en enfer. Alors, il voyait les hommes dans des chaînes. Dieu les voyait, il les voyait emprisonnés par un prince céleste qui a été expulsé, le diable. Les hommes se sont vendus dans les mains de Satan à cause de leurs péchés. Or maintenant, selon Éphésiens, chapitre 6, verset 12, les principautés, les puissances et les hôtes spirituels d'iniquité dans les places élevées règnent sur les habitants de la terre. Les esprits mauvais accablent, ils tourmentent et ils affligent leurs âmes pendant que les démons essayent d'habiter leurs esprits et leurs corps. Dieu a donc vu le monde de l'occulte. Il a vu le domaine de Satan falsifiant et contrefaisant ses cadeaux précieux, séduisant et attirant les hommes par leur curiosité et leur désir pour la puissance spirituelle. Il n'y a qu'à voir tous les gourous actuels qui s'installent. Des multitudes ont été menées de plus en plus loin de Dieu, et Satan avait gagné le monde. Et nous voyons dans Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, que Dieu aimait pourtant le monde d'un amour incommensurable. Il ne l'abandonnerait pas. Une opération de secours devait être commencée. La plus grande et la plus glorieuse qu'on ait jamais imaginée. Une personne de la Trinité, oui, une superpuissance surnaturelle, a payé pour sauver les hommes de toute cette terreur. Et nous ne pouvons pas connaître tout le conseil de Dieu. Il y a, voyez-vous, des vérités plus élevées que la limite de nos petits esprits qui peuvent comprendre que très peu parfois, c'est-à-dire nous avons une connaissance limitée. il faut bien le reconnaître. Et nous pouvons cependant comprendre l'essentiel de ce que cette mission divine comprenait. Donc Dieu nous les a montrés dans la Sainte Bible et ils sont compréhensibles. Tout d'abord, dans l'opération de secours de la part de Dieu, la liberté précieuse qu'il avait donnée aux hommes ne pouvait pas être violée. Une réponse libre devait toujours rester possible. Deuxièmement, la victoire devait être gagnée au-dedans de la dimension de la vie humaine elle-même. La bataille devait être au grand jour devant les yeux de l'homme sur la planète Terre. Les hommes et les femmes réaliseraient donc leur situation terrible. Ils verraient leur véritable ennemi et connaîtraient qu'il a été battu. Ils comprendraient alors comment leur Père au ciel, à cause de son grand amour, de sa compassion, de sa miséricorde, leur avait donné une possibilité de les rappeler de nouveau à lui-même. Puisque les enfants de Dieu étaient faits de la même texture que Jésus-Christ, Jésus avait aussi suivi le chemin de l'amour, car par la mort, il pouvait détruire celui qui possède le pouvoir de la mort, c'est-à-dire, vous l'avez reconnu, le diable. Et là, vous avez la confirmation dans Hébreux, au chapitre 2, verset 14. Dans la première épître de saint Jean, au chapitre 3, verset 8, il nous est montré que la raison pour laquelle le Fils de Dieu était venu, c'était pour détruire les œuvres du diable. Troisièmement, cette grande action de secours posséderait deux aspects dynamiques et profonds. Elle s'occuperait de l'essentiel du problème de l'homme, de ce qui est mauvais en lui. Il le libérerait aussi du mauvais qui est en dehors de lui-même, le diable et tous ses démons. Et selon Hébreux, au chapitre 10, verset 10, le sauveur de l'homme deviendrait un sacrifice parfait pour les péchés du monde, et ainsi il rendrait caduque les efforts de Satan. Aucun être humain avait la possibilité de faire ceci. Même l'homme le plus saint serait toujours un pécheur sans puissance contre les forces du mal. Il fallait donc du secours du ciel lui-même. Une superpuissance devait donc entrer dans l'arène humaine. Dieu a donc choisi les Israélites et leur a préparé à recevoir ce sauveur des hommes. Et quand tout a été prêt, la décision était faite dans le conseil de Dieu et par une action libre de l'amour. Jésus, Fils de Dieu, c'était lui la lumière du monde. Donc un membre de la Trinité de Dieu a dû quitter l'éternité pour entrer dans le temps et dans l'espace. Notez saint Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 18. Alors ceci n'est pas une histoire pour des petits-enfants. Cela se passait quand Augustus était l'empereur de Rome. Hérode, il était le roi de Judée et c'était le recensement romain de toute la terre, selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 et 2. Et vous pouvez aussi noter saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Donc, Dieu a employé une jeune vierge juive pour être le véhicule de Jésus-Christ devenant un être humain. Christ pouvait maintenant être vu, il pouvait être entendu et touché, selon la première épître de saint Jean, chapitre 1, verset 1. Il est donc entré dans la sphère qui est contrôlée par le diable pour une tâche spécifique. C'est pour sauver son peuple de leurs péchés et de les livrer des mains du malin, de les délivrer des mains de l'ennemi. Et selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18, Jésus, le super pouvoir, est venu pour nous offrir la paix avec Dieu. Dans saint Luc, au chapitre 15, verset 11, et vous pouvez noter jusqu'au verset 32, là, vous verrez que Jésus a parlé de l'offre de Dieu et de la réconciliation en tant que celle d'un père qui souhaite la bienvenue à son fils retrouvé. Et dans cette fameuse parabole, le jeune homme capricieux était tombé au plus bas, mangeant même dans une porcherie. Et puis, il est revenu à la raison et il a décidé de retourner chez lui et de reconnaître ses fautes et de s'excuser, de demander pardon. Il est donc allé demander pardon à son père. Et quand il est arrivé, il a tout de suite demandé pardon à son père et ce furent les premiers mots. Et quand son père a couru, nous est-il dit, pour l'accueillir, ils sont tombés dans les bras de l'un et de l'autre. Ainsi, sa position de fils était restaurée immédiatement et totalement. Ceci, disait notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, nous montre la nature de Dieu dans ses relations avec l'homme pécheur. Cette offre de pardon à celui qui se repent était le thème principal sur les lèvres de Jésus-Christ. Mais il n'a pas seulement parlé, il agissait. Jésus-Christ a montré l'amour du pardon de Dieu, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes. Notez saint Luc, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 26, et vous pouvez aussi noter le chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Selon saint Luc, chapitre 8, verset 1 et 2, là nous voyons que cette offre était également offerte pour les rejetés, tels que Marie-Madeleine, qui était une prostituée, ainsi que Zachée, un percepteur des contributions, et selon saint Luc, chapitre 15, verset 1, les Samaritains, qui eux étaient considérés par les Juifs comme étant au banc de la société, selon saint Jean, chapitre 4, verset 9. Or, tout cela, chers amis, a mené Jésus-Christ au conflit direct avec les autorités de l'Église. Eh oui, ils ont dit à Jésus-Christ, « Toi et tes disciples, vous mangez et vous buvez avec les pécheurs et ils les ont accusés violemment. Mais Jésus leur répondit, selon Saint Luc chapitre 19, verset 10, « Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'était le plus grand scandale religieux de l'époque. Sachez, chers amis, que si Jésus était toujours parmi nous, il est sûr qu'il passerait une grande partie de son temps en cherchant les perdus, même en solo, donc seul, allant de lieu en lieu, où l'iniquité abonde. Jésus-Christ offrait un nouvel espoir à tous les rejetés et aux personnes victimes de la drogue et aux alcooliques et les accidentés divers de la société moderne. Il est presque certain qu'il aurait peu à faire avec les credos et avec les rituels de certaines églises et religions qui utilisent souvent aujourd'hui son saint nom pour des intérêts totalement personnels. N'y a-t-il pas actuellement un grand scandale au Vatican? Ce n'est pas bien, c'est une honte. Et n'oublions pas, chers amis, que pour Jésus-Christ, les gens étaient plus importants que les principes. Les contacts avec les gens perdus spirituellement étaient beaucoup plus importants que certains rites et certaines formalités compliquées d'adoration. Et selon saint Matthieu, au chapitre 23, verset 13, les pharisiens, les religieux, les plus ardents de l'époque, étaient ceux qui le critiquaient avec le plus de violence. Jésus-Christ a appelé des hommes et des femmes pécheurs des chemins et des sentiers de la vie et pour les amener au royaume de Dieu. Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Donc, d'un certain point de vue, c'était ce scandale qui a réveillé la haine des hauts dignitaires ecclésiastiques et qui a rendu son exécution, donc il a rendu cette exécution, malheureusement, étant une nécessité devenue urgente. Et d'un autre point de vue, nous voyons dans saint Marc, au chapitre 14, verset 12, jusqu'au verset 25, que Satan travaillait et utilisait des hommes pour prévenir la menace de Jésus envers son royaume. Mais gloire à Dieu Tout-Puissant, l'Esprit supérieur était Dieu qui fait marcher son plan pour le salut de l'humanité. Jean-Baptiste avait tout examiné et avait tout compris dès le début. Quand il a vu Jésus pour la première fois, rappelez-vous, il a crié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Saint Jean chapitre 1, verset 29. Plus tard, Jésus a révélé le plan de Dieu à ses disciples en leur disant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il serait rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qu'il serait mis à mort, mais qu'il ressusciterait 3 jours après. Saint Marc, chapitre 8, versets 31 et 32. Et vous pouvez aussi noter le chapitre 9, verset 31, en plus le chapitre 10, verset 33. Je m'excuse de vous donner toutes ces indications bibliques, mais je ne voudrais pas que vous puissiez imaginer ou penser que c'est de mon cru. que je parle, que c'est des idées à ma personnalité, donc venant de moi. Non, 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 je ne me permettrai pas une chose pareille. Or, le drame, chers amis, il s'est déroulé lorsque Jésus a marché vers la croix. Jésus a choisi librement de sacrifier sa propre vie pour ses frères et sœurs, pour toi comme pour moi. Saint Jean chapitre 10, verset 8. Pendant qu'il mangeait son dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris le vin et le leur donnant en disant « Buvez-en tous, car ceci, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc sa mort était devenue nécessaire pour sauver l'humanité. Alors le jour est arrivé quand une foule hystérique, oui, un groupe d'hypocrites religieux et un politicien lâche et des soldats ivres l'ont carrément cloué sur la croix. Saint Jean, chapitre 19, ainsi que Saint Luc, chapitre 23, et en plus Saint Matthieu, chapitre 27. Donc, voyez-vous, tout cela confirme la vérité. Le péché de l'homme n'a jamais été plus visible. Mais parmi toutes les horreurs, nous voyons l'amour de Dieu qui triomphe. Lorsque des hommes et des femmes ont fixé le regard sur la croix, ils ont trouvé un amour beaucoup plus fort que leur péché. Un amour qui a noyé leur péché dans une mer insondable. Jésus-Christ a dit dans Saint Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quel fantastique et merveilleux amour de mourir pour que ses amis puissent vivre. Ceci, Jésus-Christ, il l'a fait. Et Jésus n'est pas mort seulement pour ses amis, mais il est également mort pour ses ennemis. Oui, Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, selon Romains, chapitre 5, verset 6 à 8. Pendant que nous étions des ennemis contre Dieu, nous avons été réconciliés par la mort de son Fils bien-aimé. Oui, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Au fait, Jésus a prié pour ses assassins. Vous pouvez le trouver dans Saint Luc, chapitre 23, verset 34, et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toute l'humanité était inclue dans cette prière. Or, un tel amour est bien trop élevé pour nous, pour le comprendre complètement. John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, a écrit ceci. « Ô amour, abîme sans fond, mes péchés sont engloutis en toi, couverts et pardonnés est mon péché. Aucune tache de culpabilité ne reste en moi. » Pendant que le sang de Jésus sur la terre et au ciel est le résultat de sa grâce et de sa compassion illimitée pour tous ceux qui désirent accepter son immense salut. Oui, son amour. Dans Ésaïe, au chapitre 53, versets 5 et 6, vous pouvez lire les paroles qu'un autre compositateur, Handel, le fameux Handel, a mis en musique dans son oratorio, c'est-à-dire le Messie. Il a écrit « Il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, nous savons qu'il a porté nos péchés en son propre corps sur la croix. » Et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, vous le confirmera. Des millions de personnes pour lesquelles ceci était vraiment vrai dans leur propre expérience, quand ils se sont rendus librement et sans aucune réserve à l'amour de Dieu. Ils ont accepté sans aucune condition ce qu'il a fait pour eux. Le péché qui a son origine en nous-mêmes permet au diable de nous attaquer, mais cela a maintenant une réponse efficace dans le sang et le sacrifice de Jésus-Christ. Aucune science, aucune technologie, aucun médecin ou psychiatrie aurait pu faire ceci pour nous. Oui, chers amis, un besoin spirituel devait avoir un remède spirituel. De voir cette vérité et d'appliquer ce remède peut révolutionner la vie des hommes et des nations. De l'autre côté, Jésus-Christ était absolument triomphant sur toutes les forces spirituelles du mal. Du reste, selon saint Marc, chapitre 1, versets 23 à 27, il les a rencontrés tout au début de sa mission. Et là, il y avait dans la synagogue un homme avec un esprit impur. Et il s'est écrié et il a dit « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Et à la stupéfaction des foules, Jésus a immédiatement expulsé les collaborateur malfaisant de Satan. Jésus était donc occupé constamment avec de telles délivrances. Voyez-vous, chers amis, les incidents sont bien trop nombreux pour étudier chaque cas en détail. Mais dans tous les cas, le résultat était leur délivrance. Saint Marc, chapitre 7, verset 26, et vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 28, plutôt chapitre 8, verset 28, ainsi que Saint Luc, chapitre 11, verset 14. Et là, vous aurez la confirmation de cette histoire. Voyez-vous, les esprits impurs, ils reconnaissent toujours son autorité sur eux. Et c'était là que l'autorité sainte de sa personnalité a prévalu. Donc, Jésus-Christ inaugurait une manifestation continuelle du pouvoir du royaume de Dieu. Il remplaçait ainsi en écrasant et en s'opposant au royaume de l'ennemi, de Satan. Le diable il devait lancer une offensive. D'abord, il a utilisé quelqu'un d'entre les Juifs pour accuser Jésus d'être un espion, disant dans ses Matthieu, chapitre 12, versets 24 à 28, « Voyez-vous, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, qui est le prince des démons. » Et c'est confirmé par saint Matthieu, chapitre 12, versets 24 à 28. Et notez également saint Marc, chapitre 3, verset 22. Du reste, d'autres ont, selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 32, ils ont également dit que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Or, nous voyons dans saint Matthieu, au chapitre 12, verset 25, que Jésus leur a appris une leçon fondamentale à propos de sa victoire sur les pouvoirs du mal. Il leur a répondu que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut jamais subsister. Donc, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? Je vous le demande. Et c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et lui dérober ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il dévalisera sa maison. Et ceci est donc un commentaire sur la bataille que Jésus-Christ devait continuellement livrer contre les laquais de Satan, et cela représente sa victoire constante sur eux. Donc, Satan devait toujours être vaincu, et pour se battre contre lui, Jésus-Christ devait livrer une véritable bataille à la mort. Il en a parlé dans saint Marc, au chapitre 10, verset 45, au sujet d'une rançon qui devait être payée, car le Fils de l'homme est venu, est-il écrit, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs, pour toi, cher ami, et pour moi. Du reste, cela est confirmé dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 18. Et quand il a écrit, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, chers amis, la vie de Jésus était la rançon qui devait être payée pour nous libérer des pouvoirs du mal. Jésus-Christ a fixé son regard vers Jérusalem pour mourir sur la croix. Le Sauveur des hommes a été mené comme un agneau à son massacre. Et un moment très révélateur est arrivé quand il a crié sur la croix, « Tout est accompli !» Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Voyez-vous, chers amis, ce cri a pu ressembler à un cri d'échec et de désespoir, je dis bien a pu ressembler. Parlant du point de vue de l'homme, il semblait qu'il avait été battu et que sa vie était finie. Le mot grec employé pour accompli veut dire complète et dénote un cri de satisfaction. Voyez-vous ? Donc le cri d'un homme qui avait parfaitement et absolument fini son travail jusqu'au dernier détail. Ainsi, Jésus a accompli sa mission. C'était aussi un cri de triomphe, car Satan a été vaincu, alléluia. Il a mis toutes ses forces en action pour perdre Jésus, mais il avait raté son coup. Jésus-Christ, par sa mort, avait gagné une merveilleuse victoire, non seulement pour lui-même, mais pour toute la race humaine. Elle a été atteinte à notre niveau, partageant donc notre nature. Le règne de Satan était terminé. Un cri de victoire résonnait dans le ciel. Et ce cri, c'était « Tout est accompli ». Et cette victoire était clairement démontrée par la résurrection de Jésus le troisième jour. L'étendue de cette victoire est représentée par son ascension au ciel. Oui, à la position la plus haute qu'il ait connue depuis toujours. Alléluia. Saint Paul, il a prié pour que les gens commencent à comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de sa manifestation avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et vous pouvez noter Éphésiens, chapitre 1, versets 18 à 23, ainsi que le chapitre 3, toujours d'Éphésiens, et le verset 10. Chers amis, la Bible nous dit, dans Éphésiens 4, verset 8, « Étant monté en haut, au ciel, il a amené des captifs avec lui et il a fait des dons aux hommes. » Et dans Colossiens chapitre 2 verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, le mot « triomphe » a sans aucun doute des associations militaires. Pouvez-vous imaginer, chers amis, les rues de Rome en son temps, quand ils ont célébré une grande victoire militaire, comment accueilleraient-ils leur héros vainqueur? Ils l'ont fait en donnant au général l'honneur d'une procession triomphante. Et le jour nommé, les rues étaient bordées de foule. Oui, plein de foule de gens qui applaudissaient. Le héros sur son cheval, son épée soulevée, était le premier à venir en vue. Il était à la tête de la procession. Derrière, ils étaient suivis par des chariots nombreux, rempli de bijoux, des trésors et des vêtements le butin des ennemis vaincus. Et finalement, venaient les rois qui ont été vaincus à la traîne, enchaînés, figurez-vous, enchaînés, et les têtes inclinées. Ils étaient devenus les objets de ridicule et de mépris. Or Jésus a éprouvé un triomphe semblable lorsque il est monté au ciel en ayant obtenu la victoire sur Satan et sur le péché. Cette bataille combattue sur la colline aux abords de Jérusalem en l'année 27 après Jésus-Christ a des répercussions dans chaque dimension de la vie dans l'univers. C'est une victoire cosmique, c'est un fait, on peut dire un fait divin. Il faut donc toujours, cependant, qu'elle soit entièrement manifestée, car la victoire, elle doit toujours également s'appliquer sur la terre. Et ceci, chers amis, parce que Dieu, il préserve et il permet toujours la liberté originale qu'il a donnée à sa création et qu'il a permis, même aux ennemis vaincus, il a donné une mesure d'activité, bien que leur fin soit sûre, et des garnisons du mal continuent actuellement à se battre comme les Japonais en son temps, dans la jungle pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui du reste ne savaient même pas que leur gouvernement s'était rendu. Alors il y avait des hommes, donc, qui étaient encore là, en train de faire la guerre, sans savoir que c'était terminé. Alors voyez-vous, lorsque Jésus-Christ s'est rendu à Dieu, là, on peut dire, il nous a libérés avec lui contre tous les pouvoirs de l'ennemi. Donc, on peut dire que le véritable triomphe, il sera manifesté sur la terre devant nos yeux et dans notre dimension au retour du Seigneur Jésus-Christ en pouvoir et dans toute sa gloire. Alors, nous verrons vraiment l'achèvement et nous verrons vraiment le fait absolu de la victoire de Jésus-Christ gagnée pour nous, pour toi, par la faiblesse de l'échec, un échec apparent, vous avez bien compris, apparent de la croix, car à ce moment seulement, la victoire sera vraiment visible aux yeux des fidèles, mais manifestée à toute l'humanité. Jésus-Christ, il a prédit comment certains signes de l'époque indiqueraient la proximité de son retour. Beaucoup de chrétiens croient que ceci se passe maintenant et que le Seigneur prendra bientôt son peuple pour être avec lui dans la gloire. L'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12, versets 9 à 12, nous apprend qu'en ce temps-là, le diable fera un dernier effort terrible avant d'être finalement détruit et jeté dans la place qui est préparée pour lui et pour ses anges. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, versets 9 à 12, que je vous ai déjà mentionné. Mais vous pouvez ajouter Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41. Oui, chers amis, Jésus, la superpuissance surnaturelle, est totalement victorieux. Gloire à Dieu. Je suis infiniment reconnaissant que mes yeux ont été ouverts à la réalité du diable et de toutes ses intrigues. J'ai vu clairement l'étendue de la victoire de Jésus-Christ sur le mal. Et à partir de ce moment-là, avec des millions d'autres gens, j'ai vu la chrétienté comme le but le plus vital de l'univers. J'ai donc pu chanter à Jésus, mon Sauveur, avec une conviction profonde, les paroles suivantes. Oui, Alléluia, chantons Jésus, à lui le sceptre, à lui le trône. Oui, à lui le triomphe, à lui seul la victoire. Entends les chants de Sion qui tonnent comme un torrent énorme. Jésus nous a rachetés par son sang précieux d'entre toutes les nations. Amen. Et chers amis, nous allons terminer, si vous le voulez bien, simplement par la prière. Prions ensemble. Élevez vos cœurs. Nous les tenons levés vers le Seigneur. Hors des ténèbres, vers la lumière. Hors du désespoir, vers la joie. Hors de la mort, vers la vie. Hors de la servitude, vers la liberté. Après la nuit vient l'aurore, après l'hiver le printemps. Après la colline du crâne vient le jardin d'Arimathée. Et après le vendredi vient le dimanche. De même que nous avons commémoré le cruel supplice du Sauveur, sa mort solitaire, le drame de l'amour vaincu par la haine et le juste sauvagement piétiné par l'ennemi. Et de même, préparons-nous, chers amis, à fêter avec sérieux, avec allégresse, le merveilleux triomphe du ressuscité, du glorifié, victorieux, et tout cela pour nous racheter et pour nous sauver. Amen. Amen.